En tête, avec le Grand Hôtel des Races, 3 étoiles et sa terrasse panoramique, grandhotelrace.ch.
Bille en tête. Philippe Ligron et Duja.
Bonjour monsieur, l'émission Bille en tête sur la première. Quelle est la figure de l'histoire romaine qui vous a le plus fasciné?
Qu'est-ce qu'on va dire? Jules César.
Ouais. Vous auriez aimé être empereur?
Non.
Pourquoi monsieur?
Parce que je crois que la vie est plus belle maintenant, telle que je suis.
Bille en tête ici au musée romain de Vallon, dans le canton de Fribourg, Philippe. On y va, on est prêt, on attaque, c'est vendredi.
Bonjour à tous et aujourd'hui nous sommes très bien entourés puisque nous sommes avec Marie-France Mélan, Clara Agustoni. Et puis aujourd'hui nous avons plus un invité mystère qui est Carmen Buchiller. Bonjour Carmen.
Bonjour.
Alors Carmen, que faites-vous avec nous?
Eh bien, je connais un petit peu Vallon pour avoir fréquenté en 1999 et 2000 lorsque le musée a été inauguré, puisque j'ai travaillé ici à l'époque comme conservatrice déléguée du service archéologique de l'État de Fribourg. Et actuellement, je suis à nouveau en phase avec le musée romain de Vallon, puisque j'assume la tâche d'archéologue cantonal pour le canton de Fribourg, justement.
Alors, ça veut dire quoi concrètement? Quel est votre rôle? Que fait un archéologue? Que fait une personne comme vous? Vous allez gratter la terre? Vous recensez?
Le cantonal, Philippe.
Ouais, justement. C'est-à-dire, quel est votre rôle? Vous êtes responsable de tous les sites de la région, du canton. Vous grattez encore la terre pour trouver des pierres. Je ne sais pas, c'est quoi votre rôle exactement?
Voilà. Alors, de gratter la terre pour trouver des pierres et d'autres vestiges, ça, c'est bientôt plus qu'un rêve, en fait.
Ah, un rêve, c'est-à-dire voilà. Que ça vous manque quelque part.
Ça manque quelque part, oui, tout à fait. Le travail sur les fouilles est très, très pénible. Hein, c'est quelque chose de fantastique. On a, je crois, tous et toutes commencé par là. Puis,
c'est physique.
C'est très physique, oui. Il faut y aller avec les saisons et voilà. Non, c'est pas toujours évident. Et puis, ben, à l'âge venant, on se fait une raison et puis on se dit qu'on serait peut-être pas mal dans l'administratif aussi. Alors, le but étant de se battre pour l'archéologie, pour notre métier, pour les découvertes, pour le patrimoine.
Qui est mis en danger parfois?
Qui est parfois mis en danger, absolument, dans des cantons en fort développement, comme le canton de Fribourg notamment. C'est clair qu'il y a des pesées d'intérêts qui doivent se faire, et avec la forte pression de certains milieux notamment, il y a des pesées d'intérêts. En général, on arrive à se faire comprendre et à se faire entendre jusque-là.
Ça voudrait dire quoi, que les milieux économiques sont l'ennemi de l'archéologie?
Écoutez, non, on est là pour fonctionner ensemble. Ah. Donc, ce dont il faut que les gens se rendent compte, c'est qu'il faut nous prendre avec. Il faut mitmachen. Oui. Et ça veut dire que si on nous implique assez tôt, en amont, dans des projets, non, sous ça, il n'y a pas de problème, quoi. On nous prend avec et puis on arrive à planifier un projet complet avec l'intervention des archéologues sur le terrain au besoin.
C'est un travail cantonal ou est-ce que vous êtes aidé par la Confédération dans ce travail de sauvegarde du patrimoine?
Alors pour les travaux de recherche, ça incombe en particulier aux cantons, aux différents cantons, qui disposent presque tous d'un service archéologique cantonal, sauf encore 7 cantons de Suisse centrale et de Suisse orientale.
Quel hasard!
Quel hasard, vous savez, là-bas, les montagnes sont très pointues et tombent très vite dans le lac, donc il y a aussi peut-être un petit peu moins de sites. Non, c'est juste une plaisanterie, en fait. Mais les choses sont en train de se mettre en place, il y a peut-être Appenzell qui va rejoindre, etc. Mais tout ça pour revenir au rôle principal des fouilles préventives, surtout sur le terrain, ça incombe aux cantons, en fait, aux différents cantons. Et puis, vous évoquiez l'aide de la Confédération, donc nous avons bien sûr la chance, de temps à autre, de pouvoir recourir à des soutiens, en particulier financiers. Bien sûr, puisque c'est le nerf de la guerre pour certains types de projets ou de conservation, où là on peut justement aller démarcher auprès de l'Office fédéral de la culture, par exemple, ou d'autres milieux.
Racontez-nous l'histoire de ce musée.
Il était une fois des Gallo-Romains qui se sont établis ici à Vallon il y a fort longtemps. Et puis en 1999, ben c'est l'histoire finalement du réveil de la belle Cendrillon par le petit baiser, etc. Hein, de la belle, c'était plutôt la belle au bois dormant, hein, c'était pas Cendrillon.
La belle mosaïque au bois dormant.
La belle mosaïque au bois dormant, exactement. Après avoir été mise au jour en 1985, notamment par des gens qui fréquentaient le pénitencier de Bellechasse, parce que vous saviez qu'il y avait des objecteurs de conscience qui, à l'époque, se faisaient encore emprisonner. Et le service archéologique de l'État de Fribourg, qui était alors sous la houlette de sa fondatrice Annie Schwab, eh bien, elle avait peu de moyens, et puis elle a décidé de travailler d'une part avec les écoles, et d'autre part avec des institutions comme les prisons, en l'occurrence la prison de Bellechasse. Et en fait, en 1985, ce sont des prisonniers d'opinion, enfin de... qui ont participé à la mise au jour, justement, de la grande mosaïque de la Venatio.
Et ça s'est passé comment à l'époque? Tout de suite l'idée de faire un musée, on a envie d'exploiter, entre guillemets, au niveau archéologique, ce genre d'endroit? Ou alors c'est une démarche qui prend du temps?
Alors on a eu une chance énorme, c'est de pouvoir disposer à l'époque, en la personne de Dani Schwab, d'une bonne politicienne également. Elle avait sa place au Grand Conseil fribourgeois, elle avait des antennes à gauche à droite, elle avait de très bons relais, ce qui fait qu'elle a su susciter l'événement et elle a tout de suite pu démarcher auprès du Conseil d'État de l'époque et puis du Parlement cantonal. Et par la suite, elle a également demandé des fonds au niveau de la Confédération, raison pour laquelle nous avons pu avoir... une dizaine de campagnes de fouilles qui se sont succédées, échelonnées ici sur le site de Vallon, suite à la découverte de la première mosaïque.
Bonjour monsieur, c'est Bill en tête, on va faire un petit cours d'histoire. L'Empire romain.
Ouais, dites-moi.
C'est de quand à quand?
D'Orient ou d'Occident, j'aurais déjà envie de vous dire.
On va commencer par Occident.
Jusqu'en 376, je pense qu'on peut fixer de moins 753 à plus 376.
Et qu'est-ce qui s'est passé alors? À partir de quand est-ce que ça a commencé à péricliter?
Bon, alors, je suis pas assez spécialiste pour vous dire ça, je pense après l'Empire, quoi. Donc autour de la naissance de Jésus-Christ, quoi.
Et le summum de cette civilisation, c'était quoi?
Sous César, peut-être, quoi. Ouais. Mais franchement, je ne saurais pas vous dire plus, quoi.
Ça vous plaît comme période de l'histoire?
Ouais, moi j'ai étudié ça quand j'étais au gymnase, donc quand même un peu, quoi. Ouais.
Et en latin, il y aurait une citation latine qui vous plaît particulièrement?
Ah, Léa Jactest, bien sûr.
Vous le connaissez, là.
Ouais, ouais. Ouais. Ou bien, ce que vous voulez, Vae Victis.
Et Pluribus Unum.
Ah ouais, voilà, très bien, mais bon, faut être un peu américanophile pour ça, peut-être, quoi.
Être archéologue, souvent, il y a cette idée, c'est peut-être un cliché, mais d'être l'Indiana Jones, hein, tout de suite, on va tomber sur des trésors fabuleux. Vous, qu'est-ce qui vous a motivé comme ça à devenir archéologue?
Ben, c'était de partir à la découverte des vestiges du patrimoine de nos ancêtres, en fait. C'était ça. Mais il faut dire que chez moi, ça a passé par l'amour des langues anciennes. C'était les textes, c'était la poésie, c'était ce qui nous restait aussi de ce qui n'était pas matériel. Matériel, c'est vraiment bien le romain. C'est pour ça que j'ai un amour immodéré pour l'Étrurie et les Étrusques, qui eux étaient un petit peu les doux rêveurs qui habitaient dans le coin là-bas. Péninsule italienne, par exemple. En tout cas, c'est l'image qu'on a.
Les Étrusques qui ont été, comment dire, un peu écrasés par les Romains.
Phagocytés, disons-le. Ouais. Oui,
phagocytés. Absorbés.
Oui, absorbés, exactement. Oui, oui. Mais ceci étant, bah oui, c'est un amour pour ce patrimoine, pour les vestiges du passé, un respect aussi. Et il faut dire qu'actuellement, toujours, la plupart du temps, en tout cas, pour tous les archéologues que je connais, lorsqu'on va sur le terrain, on a aussi la passion et le respect du monde paysan, des gens qui cultivent la terre aujourd'hui, qui sont dehors. Et qui voilà, qui ont un travail pénible comme nous lorsque l'on est sur le terrain. Et puis c'est une histoire de tradition, c'est une histoire de passation, d'information, de culture, de voilà.
J'aimerais juste revenir un moment sur ces Étrusques parce qu'on en parle peu, l'histoire les a un peu oubliés. Même si on est au musée romain ici, je me souviens que mon père m'en parlait beaucoup vu qu'il était d'origine italienne. Et c'était un modèle, un peu une civilisation modèle. Là aussi, on se fait des idées, on idéalise une peuplade.
Il y a eu certainement de ça, et puis c'était avec la Renaissance justement qu'est né le grand mouvement, hein, le Rinascimento, de toute cette passion pour l'Étrurie, mais c'était pas seulement pour l'Étrurie, c'était aussi pour le Latium, etc., pour la Campanie. Mais c'est vrai que c'était un petit peu le retour vers le classique, et lorsqu'on parle de langue pure aussi, on parle toujours de la Toscane, Étrusque, et puis il y a toute la mythologie qui existe au niveau de la provenance de ces Étrusques, parce que certains, enfin maintenant on pense, et on est assez sûr que c'était une civilisation autochtone, indigène, mais il y a eu... Plein
des Atlantes.
Peut-être, non, des Lydiens, peut-être, des Lydiens, des gens qui seraient venus d'Asie mineure, etc. Différents historiens nous comptent justement l'histoire de cette brave population de Lydiens qui était un jour affamée. Alors, le brave roi, dont je ne me souviens plus du nom, peu importe, un jour, il a décidé que la moitié de la population allait jouer et l'autre population mangerait. Ça veut dire qu'ils avaient besoin de nourriture que pour un jour sur deux. Mais au bout d'un moment, la population en a eu ras-le-bol et puis elle se serait exilée, semble-t-il.
Parce qu'on dit que c'était une peuplade autochtone, mais en même temps, selon leur art, il y a des représentations, des façons de faire, des certaines statues, certains visages qui sont complètement en distorsion avec ce qu'on avait l'habitude de voir à la même époque en Europe. Ça, c'est un fantasme aussi d'historien ou d'archéologue de se dire qu'il y a des exceptions comme ça qui viendraient d'ailleurs.
Ouais, mais c'est pas des exceptions. Si vous regardez ce qui se passait dans le bassin méditerranéen, quand on parle de la Grèce classique, etc., il faut pas pas oublier qu'il y avait des colonies grecques dans le sud de l'Italie, les Pithécuses, etc., depuis 800 avant Jésus-Christ, le golfe de Tarente, etc. C'était des terres qui étaient grecques. Et là, vous retrouvez, quand on parle du sourire de la Joconde et quand on parle de l'ombra della sera, avec la fameuse sculpture, etc., qu'on retrouve ce Giacometti qui a fait le Montmartre, etc. Ça fait partie de notre monde, de notre koiné à nous, au niveau de la pensée, au niveau de la représentation artistique. Mais disons que pour répondre à votre question, si on prend l'époque orientalisante, qui était une des époques la plus fastueuse du monde étrusque, eh bien, vous retrouvez les mêmes, la fameuse maîtresse des animaux, la Despoina Terone, comme on l'appelle. C'est quelque chose qui se retrouve tout à fait dans le bassin méditerranéen, dans le monde égéen.
Les Romains ont beaucoup pris sur ces étrusques.
Oui, ils ont pris certains côtés, disons, pour moi, qui m'impressionnent le moins. Mais par exemple, quand on regarde de nouveau au niveau des noms, le masque, persona, ça vient de fersou, en fait. Et la langue étrusque, c'est quelque chose qu'on connaît, en fait.
Parler l'étrusque.
Pas couramment, non. Pas couramment.
Il y a comme des gens qui s'amusent à le parler.
Non, à le parler, pas à ma connaissance. Par contre, il y a des gens qui ne s'amusent pas, mais qui font métier de l'étudier. Des fameux linguistes qu'on trouve notamment à l'université à Florence, etc.
Courir, courir dans les forêts, jeter mon corps dans les rivières, sauter très haut des grands rochers, nager, nager sous les flots clairs, pied au plancher dans ma chrysler, décoller vers les
fait d'être passionné par cette langue, de vouloir parler cette langue, c'est quoi, pourquoi pour découvrir des textes, mais il faut vraiment bien pratiquer la langue pour sentir même la fibre même du texte, ou c'est juste par plaisir comme ça, pour l'amour de parler une langue dite morte entre guillemets.
Ben justement, en fait, je profite de la perche que vous me tendez pour évoquer justement l'importance des langues dites anciennes, dites mortes, pour notre métier d'archéologue et surtout pour les archéologues qui s'occupent de la civilisation gallo-romaine, romaine en général. Parce qu'on a, nous avons la chance, en tout cas pour ces périodes-là, par opposition à ce qu'on appelle la préhistoire ou la protohistoire, d'avoir des sources, d'avoir des textes, etc. Pour cette exposition temporaire dont on parle maintenant à Vallon, eh bien, c'est clair que Clara Agustoni s'est basée pour beaucoup sur des textes anciens que la littérature latine nous a transmis. Et ça, je pense qu'actuellement, on est en train de mettre au pilori ces formations parce que voilà, le monde économique actuellement, on trouve que c'est peut-être malheureusement un luxe à entretenir. Et je ne partage pas du tout ce point de vue parce que c'est une histoire culturelle. Et même lorsque vous fréquentez le médecin, vous êtes de temps en temps bien content d'avoir quelques racines de mots grecs parce que lorsqu'on vous parle, on utilise certains termes un petit peu barbares. Et bien, voilà.
On a l'impression que maintenant, c'est tout à l'innovation, à l'ingénierie.
Ça a du bon. Il faut pas se mettre dans la naphtaline non plus. Hein. Les musées doivent être vivants. Ça doit retourner à la population, contribuables, aux gens qui payent, tout ça aussi. Bien sûr. Non, il faut pas fermer tout ça. Mais n'empêche qu'il y a quand même un minuscule respect à avoir de toute cette passation d'idées de tradition.
Juste un mot de Clara Agustoni sur cette idée de gens qui se retrouvent. Je vois que vous leviez le petit doigt tout à l'heure. Vous-même, vous participez à des soirées romaines dans le plus grand des secrets?
Non, pas du tout. Mais je connais quelqu'un qui est effectivement exerce aujourd'hui la langue latine, donc qui parle, qui change en latin et en grec ancien.
Ouais, qui s'habille en toge et...
Ah, ça, je ne sais pas. Donc, non. Il m'a juste adressé la parole une fois en latin, puis on a continué un petit peu en grec. Mais bon, pour moi, ça s'arrêtait assez rapidement.
On peut inventer des mots nouveaux à la base latine?
Tout à fait. Ah. Alors, je crois que, en tout cas, il y a quelques années en arrière, moi je me souviens de mes cours de latin encore à l'école secondaire à l'époque, il y avait toute une équipe au Vatican, parce que vous savez que le Vatican a encore la langue latine presque vivante, donc, et ils devaient inventer des mots pour que le pape puisse parler avec du latin plus ou moins courant. Donc.
Toi, tu posais la question de savoir si les gens qui étaient en toge, etc., je me disais, mais on devait avoir froid là-dessous, ils avaient quand même des peaux de bête, comment on fait? Parce qu'on a toujours cette image du romain dans sa toge blanche, mais on devait se cailler là-dessous.
Non, mais on avait il y a des sous-vêtements qui existent, ou qui existaient en tout cas.
Les flippus.
Et puis, on sait, il y a un empereur, je crois que c'était Auguste, qui était assez frileux. Lui, il mettait encore une tunique. Donc, et puis, la toge, donc, de toute façon, ce sont des mètres de tissu. Hein, donc, quand vous êtes bien enveloppé, je pense qu'après, voilà, c'est pas si froid que ça. Non.
Et au pied?
Alors, il existe les sandales fermées et je suis pas une spécialiste de la chaussure, mais je sais que on sait qu'il existait aussi des sortes de chaussettes, donc. Puis bon, et puis dans les pièces, dans les locaux, enfin dans les salles, on avait des façons de se chauffer. Donc il y a le chauffage au sol, puis il y a les braseros, il y a d'autres moyens.
Marie-France Mélan, du musée d'Avenches.
Oui, puisqu'on parle de vêtements ou de sous-vêtements, c'est vrai que c'est comme pour la nourriture, ça dépend où on vit, ça dépend sous quelle latitude, ça dépend si on est riche, si on est pauvre. Et c'est vrai que la toge, en fait, elle était portée que par les citoyens romains quand ils étaient en activité, que le reste du temps, ils ne portaient pas une toge. Bon, ils ne portaient pas de pantalon, c'était ces vêtements... alors justement,
les Gaulois, ça.
Les braises, c'était chez les Gaulois. Mais c'est vrai qu'à l'époque romaine, ici, les gens ont continué de s'habiller comme avant. Donc, ils avaient encore ces braises, c'est vrai, ces pantalons, souvent à carreaux. Et puis, porter un manteau à capuchon. Le capuchon, c'est typiquement gaulois. Et tandis que puis si on suivait la mode romaine, si on était de bonne famille, bon, voilà, alors on s'habillait, on se coiffait comme l'empereur ou comme l'impératrice. Et puis, pour parler de sous-vêtements, bah oui, les femmes avaient aussi des sous-vêtements, les hommes aussi, mais les femmes aussi.
Ça ressemblait à quoi?
Alors, ça, voilà, des bandes de tissu qu'on mettait autour des seins. Et puis, ils avaient des maillots de bain aussi, ils avaient des slips, ils avaient, alors, je sais pas s'ils avaient des strings peut-être. Aussi. On retrouve très rarement les sous-vêtements, mais on a une mosaïque de Piazza Armerina en Sicile. On voit des femmes qui jouent, qui font du sport, elles sont en habit de sport et elles ont des vêtements, et probablement du cuir, parce que j'ai vu une reconstitution dans un musée de ces sous-vêtements-là, c'était en cuir. Une petite
faire du sport en sous-vêtements de cuir,
c'est un étoisseau.
J'ai une question par rapport à ces Romains. Vous disiez cette semaine qu'ils étaient finalement pas si différents que ça de nous. Est-ce qu'ils étaient, au niveau du corps, aussi fragiles qu'on pourrait l'être maintenant? Ou est-ce que c'était des gens quand même assez robustes? Mais est-ce qu'au niveau de la résistance aux maladies, au froid, ces choses-là, est-ce qu'ils étaient différents de nous, ces gens-là?
Je pense qu'ils n'étaient pas différents, sauf qu'ils avaient une activité physique qui était certainement plus intense, mais comme jusqu'au XXe siècle, enfin, où les gens travaillaient beaucoup plus avec leur corps. Nous, on est un peu des bureaucrates, on est là, on est devenu une population sédentaire, c'était pas leur cas, ils marchaient beaucoup.
Mais pourtant, on nous dit, plus vous marchez, plus vous bossez, plus vous faites du cardio, plus vous devenez vieux, alors qu'eux mouraient très jeunes.
Oui, mais parce qu'ils n'avaient pas la même médecine qu'aujourd'hui. Hein. Les médicaments n'étaient pas les mêmes, les connaissances médicales n'étaient pas les mêmes, c'est sûr. Mais ils mouraient jeunes. Mais quand on regarde la moyenne âge, on dit le taux de mortalité, c'est à peu près 45 ans, 50 ans peut-être. Mais là, on tient compte de la mortalité des enfants et des femmes en couche, parce qu'il y a quand même des gens qui venaient très vieux. Avant, on a une seule funéraire d'un homme qui est mort à 92 ans.
Bonjour monsieur, l'émission Bille en tête sur la première. Connaissez-vous quelques plats typiques de la Rome antique?
Alors, un plat typique, non, je ne connais pas. Mais je connais une sauce qui était utilisée dans la Rome antique, qui était faite à base de sardines écrasées dans des pots en terre cuite. Et puis, donc, on prend des sardines avec du sel, on les met dans ce pot qui a un petit trou, c'est comme un tonneau si on veut. Et puis avec des pois dessus, et puis on laisse fermenter. Et lorsque cette sauce, si on veut dire, en effet c'est de la pourriture de sardines fermentées, on ouvre et ça donne une sauce qui est une sorte, on peut dire, de pâte d'anchois fermentée, qui était très prisée par les Romains pour l'accompagner. Tous les remets, etc. Mais pour le reste, si on veut, la cuisine italienne dérive de la cuisine en grande partie. Donc, plus ou moins, les mets, c'était la même chose. Donc,
et les orgies, on en fait toujours en Italie?
Oui, Berlusconi.
Thank you.
Philippe, tu voulais nous placer une petite recette, c'est le moment ou jamais, car l'émission tire bientôt à sa fin.
Alors, vite fait, on parlait hier des thermopoliums, on disait que c'était l'ancêtre des takeaway, tu me parlais du hamburger russe, là, je sais pas quoi. Eh ben, il y avait des frites à l'époque, et ce sont les frites de panisse. Et les frites de panisse, c'est quoi? Ben, ils n'utilisaient pas la pomme de terre, puisqu'elle n'existait pas. En tout cas, elle n'était pas arrivée en Europe. Mais ils prenaient de la farine de pois chiche, qui cuisait dans de l'eau, mais avec peu d'eau. Il faisait une sorte de pâte, et cette pâte, il la laissait sécher. Une fois qu'elle était sèche et chaude, il la mettait dans un plat, et il la laissait refroidir. Et quand la masse était dure, il coupait des petits bâtonnets qui faisaient frire, et ça faisait des sortes de frites.
Mais ces petits bâtonnets, est-ce qu'on pouvait les tremper dans la sauce? Je ne sais pas, c'est accompagné par quoi?
Peut-être avec du garum, qui est un peu le ketchup de l'époque.
Ouh là 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 là, c'est cette histoire de poisson crevé, là, tout moisi.
Oh, c'est une saumure de poisson.
Ah oui, ben c'est...
On imagine...
Ça dégageait. Hein.
Ah oui, c'était parfois même des entrailles de poisson. Il y a plusieurs garums du reste.
Hein. Donc, ça n'a rien à voir avec l'ancêtre d'un chanteur connu.
Ah non, c'est rien à voir. Et c'était l'ancêtre de la sauce de poisson du Nyokmam. Donc, est-ce qu'on est de là à imaginer que les Romains auraient piqué ça sur l'Orient? On ne sait pas. Mais
on peut imaginer ça, Carmen?
Pourquoi pas, puisque quand on sait que c'est l'antaprobane était connu par les Grecs, par Alexandre de Macédoine, etc., pourquoi ne serait-il pas allé dans cette direction? Ils sont allés dans cette direction.
Ils auraient fait le tour du monde, alors on peut imaginer que les Romains étaient allés partout, alors on peut être sûr qu'il y a des continents qu'ils n'ont jamais fréquentés. Parce qu'on a quand même vu plus tard que l'Amérique était attaquée, Christophe Colomb, les Vikings étaient allés 4 siècles avant, donc souvent on est surpris en histoire quand même parfois, non? Il y a toujours des nouvelles découvertes.
Il y a toujours des nouvelles découvertes. Par contre, les Pénans et les Papous, je ne sais pas s'ils ont eu des ancêtres romains.
Difficile à dire.
Mais l'Afrique, oui.
L'Afrique du Nord, bien sûr, avec des sites magnifiques. Et savez-vous que dans le canton de Fribourg, un petit peu plus loin de là, du côté du district de la Sarine, à Arc-en-Ciel, nous avons, entre autres choses, dans une nécropole, retrouvé des petites amphores, on appelle les amphores carottes, qui contenaient des dattes et qui contenaient différentes denrées qui venaient de la Tunisie actuelle, enfin, d'Afrique du Nord.
Et l'Amérique, impossible. C'était quand même de bons navigateurs.
C'était des moins bons navigateurs que les Grecs, alors ça c'est sûr, ils étaient plutôt des gens de la terre et ils sont bien restés en Méditerranée. Ils ont eu du mal déjà à aller de l'Est à l'Ouest. Donc je pense qu'ils sont plutôt restés en Méditerranée. Ils ont peut-être une fois passé le détroit de Gibraltar, ils sont allés explorer de l'autre côté, peut-être remonter vers l'Angleterre. Mais juste une chose étonnante, c'est qu'on a retrouvé quand même de la céramique romaine en Inde. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont allés en Inde. C'est un
commerce. Elle a pu être transportée. Ouais.
Voilà, exactement.
On arrive au terme de cette émission. Tout le monde va récapituler ces informations, ces petites actualités, Philippe. Pour le fameux festin romain qui se déroulera au mois d'août, je crois.
Au mois d'août, je vous mettrai les informations en temps et en heure quand je serai prêt. Enfin, quand on sera prêt, parce qu'on est toute une équipe à bosser là-dessus.
Des noms.
Alors, des noms, Gabriel Serrero, Julien Lerouxel. Il y a aussi Gérard Abaé, qui est un jeune retraité cuisinier qui va nous donner un coup de main pour préparer ce banquet. Il y a aussi Madame Mélan, il y a aussi Monsieur Troyer, il y a toute une équipe d'Avanche extraordinaire, Monsieur Mestre de Avanche Tourisme. Donc il y a toute une équipe là derrière.
Monsieur Mestre, Madame Mélan, c'est parce que tu te souviens plus des prénoms en fait.
Pas du tout, c'est parce que je n'ai pas fait Schmoulitz encore avec, mais ça va pas tarder. On va y arriver.
Schmoulitz, ça se dit comment en latin?
Schmoulitus. Schmoulitz. Voilà. En tout cas, n'oubliez pas la route des épices, très importante pour tout ce dont on a parlé cette semaine.
D'accord. Marie-France Mélan, le musée d'Avanche.
Nous, on va aussi organiser, comme à Vallon, quelque chose pour les journées du patrimoine qui aura aussi pour thème la table. Il y aura un repas de dégustation, mais on annoncera tout cela. Donc, c'est dans la deuxième semaine de septembre.
Clara Augustoni, autour de la table.
Autour de la table, avec des visites guidées offertes en moyenne une fois par mois à nos visiteurs, avec la fête romaine qui aura lieu ici avec le thème à boire et à manger, puisqu'il y aura des choses à faire, mais aussi des choses à manger, à goûter, à déguster.
Et à entendre avec notre ami Jean-Charles Simon.
Et il y aura les journées européennes du patrimoine, effectivement le 13 et 14 septembre avec Jean-Charles Simon, oui.
Carmen Buchillet, vous, oui. Votre été?
Alors, mon été sera assez chaud, en fait.
Ouh là là.
Et le 22, pour ne rien vous cacher, et surtout le week-end de ce qu'on appelle la Fête Dieu, qui est tout proche chez nous, donc la période du 20, 21-22 juin, puisque le canton de Fribourg accueillera les assises de l'association fêtière suisse, Archéologie Suisse. En fait, il y aura une assemblée générale, ce n'est pas palpitant, qui va se dérouler à Fribourg, ensuite une petite conférence, plus le vernissage d'une exposition temporaire que vernit le service archéologique à Fribourg, qui s'appelle « Un dernier verre », point d'interrogation, donc autour du verre. Et puis, par la suite, nous serons bien sûr ici au Musée romain de Vallon pour la fête romaine qui aura lieu le dimanche 22 juin. On pourra y déguster du jambon au miel, de la salade à l'hypotrima, de la saucisse à la romaine, de la focaccia, etc., etc.
Clara Augustoni, merci beaucoup. Carmen Buchier, Marie-France Mélan. Moi, je me souviens des prénoms, ça me fait toujours plaisir. Merci à toutes, mesdames.
Merci.
C'était vraiment un très grand plaisir de venir ici en votre compagnie et puis d'avoir, pour une fois, un peu moins de testostérone. C'est vrai que ça fait du bien.
Ah ouais, vraiment, quoi. C'est que du bonheur. En tout cas, on vous embrasse. On vous retrouve lundi matin, 9h30 sur la première.
On sera où ?
On sera dans la région de la Broye. On va parler d'une fête très particulière, très prisée des jeunes. Et c'est bien aussi d'en parler de ces jeunes qui s'appellent...
Ouais, très prisée des jeunes ruraux, Philippe.
Ben oui, ben c'est très bien parce que les jeunes ruraux, on parle beaucoup des fêtes, des concerts, des festivals, des discothèques et tout ça, mais on parle très peu de ces fêtes qui sont organisées par la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes. Et là, c'est le Giron de la Broye.
D'accord. Eh ben on se réjouit, comme tu dis toujours.
Hein? Allez, on vous embrasse, 9h30, lundi matin. Bye.
Bille en tête, avec le Grand Hôtel des Races, 3 étoiles et sa terrasse panoramique, grandhotelrace.ch.
La première, il est 10h.